VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2019. Après les qualifications du Sénégal et du Nigeria hier, les deux derniers quarts de finale de cette Coupe des Nations se disputent aujourd'hui. L'Algérie affronte la Côte d'Ivoire à 18h temps universel. Puis Madagascar sera opposé à la Tunisie à 21h. Yacouba Ouedraogo.
À 19h temps universel, les surprenants Baria auront fort à faire contre les Aigles de Carthage. Face aux Malgaches, les Tunisiens auront peut-être l'occasion de signer leur première victoire dans cette CAN après 4 nuls enregistrés jusqu'ici. Mais le sélectionneur de la Tunisie le sait, Madagascar voudra surfer sur sa bonne lancée dans cette CAN. Alain Girès.
C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussie. Ça, on en est conscient. Donc, ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender, et il faudra le prendre comme tel en respectant cette équipe qui a fait de superbes résultats dans cette compétition.
Bien avant ce match, à 16h temps universel, moins en vue que les années antérieures, la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée au forceps face au Mali devra être beaucoup plus costaud face à l'équipe en forme de cette CAN, l'Algérie.
Sur les stats qu'ils font, ils sont nettement favoris parce que quand tu fais une compétition, tu perds pas de match, t'encaisses pas de but, t'en mets 9 à tout le monde. Donc ça veut dire que c'est quand même une belle équipe. Derrière, ils sont costauds. Au milieu de terrain, ils ont de bons joueurs. Devant, ça va vite. Maintenant, on ne va pas dire que l'Algérie nous fait peur. Non, ça reste un match de foot. Chacun viendra avec ses forces, avec ses qualités. À la fin du match, on fera les bilans.
Ibrahim Camara, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent compter sur un soutien de taille, celui de leur président qui croit en cette équipe. Alassane Ouattara.
Maintenant, nous continuons. Nous avons bien commencé. Et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter deux coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203.
Si cela arrivait, les Ivoiriens resteront la bête noire des Algériens en Coupe d'Afrique des Nations. Sur cette confrontation, le bilan est favorable aux éléphants avec 3 victoires contre 2. La dernière 3-1 à cette même étape de la CAN 2015. Le sélectionneur de l'Algérie ne manque pas d'éloges à l'égard des éléphants.
Cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui arrivent aussi avec la conviction de pouvoir gagner, l'objectif de gagner.
Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo. En République centrafricaine, le gouvernement affirme que des progrès ont été faits en vue de la levée de l'embargo sur les armes, conformément aux dispositions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Morgan Guirec nous en dit plus.
Des officiers supérieurs et des officiers subalternes de l'armée ont été informés sur la gestion et le stockage des munitions et armes en ce qui concerne les armureries. Nous sommes prêts, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazaghi. D'après lui, les progrès actuels dans la mise en œuvre du programme de désarmement s'inscrivent dans le cadre de la levée de l'embargo sur les armes à destination de la RCA. La mission de l'ONU en RCA, la MINUSCA, a rappelé que le Conseil de sécurité avait adopté un chronogramme en janvier demandant à la République centrafricaine de fournir en juin un rapport sur les progrès enregistrés dans le cadre de la gestion ainsi que le stockage des armes. Le Conseil a déjà accepté des demandes de levée partielle, permettant ainsi à la Russie et à la France de fournir des armes aux FACA, les forces armées de la Centrafrique.
En RDC, divorce entre l'AFDCA et le FCC, la coalition proche de l'ancien président Joseph Kabila, suite à des désaccords sur le choix pour la présidence du Sénat. Le dirigeant du deuxième plus grand regroupement politique de la coalition de l'ancien pouvoir confirme avoir repris son autonomie après sa suspension. Eddy Sango a joint à Kinshasa le leader de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié Modeste Bahati Lukwebo.
Nous avons pris acte de leur décision de nous exclure à durée indéterminée, donc d'exclure le regroupement, parce qu'on n'exclut pas les personnes physiques, parce que moi-même, en tant que personne physique, je ne représente pas ma personne, mais le regroupement, c'est le regroupement qui est exclu.
Maintenant, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez rejoindre les CASH avec le président Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, ou l'autre camp de l'opposition, la MOUKA, ou encore autre chose?
Pour le moment, nous avons repris notre liberté et notre autonomie totale. Et les autres questions, nous allons les étudier au vu de la situation politique du moment. Ce qui est vrai, c'est que nous pouvons louer librement n'importe quelle alliance et nous n'aurons pas de comptes à demander à qui que ce soit.
Qui devient alors votre candidature, puisque vous avez justement été exclu parce que vous mainteniez cette candidature pour l'élection au poste du président du Sénat?
Comme vous le savez, nous nous sommes toujours battus pour l'état de droit, pour la justice et l'équité. Nous refusons toute dictature d'où qu'elle vienne. Nous l'avons démontré depuis la conférence nationale souveraine et dans tous les forums qui se sont tenus dans le pays. Comme vous le savez, 95% des membres de l'AFDC alliés viennent de la société civile. Et donc ce combat-là que nous menons nous amène à sauvegarder certaines valeurs. Et ici, la valeur démocratique, pour nous, elle est indiscutable. Voilà pourquoi nous estimions que la charte du FCC prédispose qu'on doit tenir compte du poids politique de chaque regroupement ou chaque parti politique lorsqu'il y a des responsabilités à distribuer. Et pour le cas d'espèce, pour la présidence du Sénat, l'AFDC estimait légitimement qu'en tant que deuxième force politique du pays, méritait de diriger une institution, d'autant plus que le PPRD, qui est la première force, dirige déjà le gouvernement par son premier ministre et l'Assemblée nationale par sa présidente. Et donc, il ne restait que le Sénat. Nous avions estimé que nous, comme nous avons 145 élus, c'est-à-dire 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, 2 gouverneurs de province, 7 vice-gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales, nous estimions que de droit, nous devrions briguer ce poste-là. Au lieu qu'on le confie à un indépendant qui n'apporte que sa personne. Donc, en termes de poids politique, il n'y a pas de comparaison à faire. Voilà pourquoi les chefs de parti, tout le monde a estimé qu'il fallait nécessairement que nous puissions présenter notre candidature au Sénat.
Vous maintenez la candidature?
Elle est maintenue et elle vient d'être confirmée maintenant là.
Mais il y a 2 jours, quelques présidents de partis de votre regroupement avaient plutôt apporté leur dévolu à M. Tambo et Alexis.
Mais écoutez, vous ne pouvez quand même pas croire à cela. Ça, c'est le débauchage, ça, c'est le résultat de la corruption, tout simplement.
Modeste Bahati Lokobo, leader de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, est allié. Vous suivez VOA Afrique. En Syrie, 47 combattants ont été tués dans des affrontements ces dernières heures entre des forces dominées par des djihadistes et des groupes du régime syrien aux abords d'un bastion d'insurgés dans le nord-ouest du pays, a rapporté aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Des combats ont également fait rage aux abords de la région d'Idlib, dirigée par des djihadistes de Hayat Tahrir al-Kam, HTS, groupe dominé par l'escadron syrienne d'Al-Qaïda, notamment dans le nord de la province de Hama. Depuis fin avril, le régime syrien et son allié russe ont intensifié leurs frappes sur la province d'Idlib et ses environs. La région abrite 3 millions de civils. Outre HTS, d'autres factions djihadistes et rebelles sont présentes. Le président libanais Michel Aoun a fait part hier de son regret au lendemain de l'annonce de sanctions américaines contre des élus du mouvement chiite Hezbollah, le président du Parlement Nabi Berri. Autre allié de la puissante formation a dénoncé une agression contre le Liban, Irénée Hermanoumbo.
Le Liban regrette le recours par les États-Unis à ce genre de mesures visant des députés élus, a indiqué Michel Aoun dans un communiqué. Le Premier ministre Saad Hariri a pour sa part souligné que ces nouvelles sanctions visant le Hezbollah représentent un tournant du fait qu'elles touchent des députés. Les sanctions américaines ont été vivement condamnées par le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, selon qui elles s'apprennent apparente à une agression contre la Chambre des représentants et certainement contre le Liban. Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre 2 députés du Hezbollah, Amin Chéri et Mohamed Hassan Rad, accusés d'exploiter le système politique et financier du Liban au profit du Hezbollah et de l'Iran. Ils ont également sanctionné Wafik Safa, chef de l'appareil sécuritaire du Hezbollah, allié de l'Iran et considéré par Washington comme une organisation terroriste.
Les gardiens de la révolution iranienne ont nié aujourd'hui avoir tenté d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Hormuz, selon un communiqué publié par leur agence de presse CEPA News. Un porte-parole du gouvernement britannique à Londres avait indiqué jeudi que des navires iraniens avaient tenté hier soir d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Hormuz, expliquant que la Royal Navy avait dû intervenir en déployant une frégate pour venir en aide à ce pétrolier. Jean-Roger Billon. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.